Il est 6h40. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Nous vous retrouvons pour le Journal des Idées.
Oui.
Vous nous emmenez ce matin, Jacques, notamment en Irak, où la jeunesse rejoint le mouvement de contestation. L'ampleur et la multiplication des mobilisations sociales dans le monde, Jacques, suscitent analyses et commentaires.
Et oui, et nous sommes raccord, Clara, vous avez remarqué.
On a parlé de la Bolivie à l'instant, Jacques.
Absolument. Alors en Irak, des milliers d'étudiants se sont rassemblés lundi dans plusieurs villes du pays, rapporte Le Monde, qui rappelle le bilan de plus de 200 personnes tuées et plus de 8000 blessées. Les manifestants, les fonctionnaires en grève et les syndicats dénoncent la corruption du régime responsable de la dilapidation de l'équivalent du double du PIB de l'Irak, pourtant riche en pétrole. Ils réclament la dissolution du Parlement et une nouvelle constitution. En 16 ans, disent-ils, le complexe système de répartition des postes en fonction des confessions et des ethnies n'a fait que renforcer le clientélisme d'une classe politique inchangée sans laisser d'horizon ouvert aux jeunes dont 1 sur 4 est au chômage. Comme un air de déjà-vu, la mobilisation gagne en ampleur sur l'emblématique place Tahrir à Bagdad qui s'est couverte de tentes, de stands de distribution de nourriture et de protection contre les grenades lacrymogènes. Dans les pages idées du quotidien, Emmanuel Barrosé et Yvan Sansolieu évoquent à propos de la violente déflagration sociale au Chili la convergence planétaire d'une pluralité des sentiments d'injustice. Certains de ces mouvements ont une causalité économique immédiate, comme le refus de nouvelles taxes ou la hausse des prix. France, Liban, Équateur, Chili. D'autres ont des causalités politiques autour de revendications démocratiques, comme au Venezuela, Algérie, Soudan, Égypte, Bolivie. Mais souvent, les deux aspects se rejoignent, observent les sociologues, car l'autoritarisme et la concentration des richesses sont des phénomènes intriqués. C'est le cas au Chili, notamment, où l'économie rentière monopolistique et le capitalisme familial accentuent les tendances autoritaires. Au Liban, le politiste Ziad Majed évoque un air de mai 68, tant les revendications des manifestants vont au-delà du renversement des élites politiques et visent aussi le racisme, le sexisme et les discriminations. Il souligne que la mobilisation s'est étendue à l'ensemble du pays, jusqu'à des localités du Liban Sud, fief du Hezbollah chiite, considéré comme l'acteur le plus puissant du pays et le plus rassembleur de sa communauté. Et que cette nouvelle dynamique citoyenne crée un précédent dans la culture politique du pays. Là aussi, la mobilisation se traduit par l'occupation des espaces publics et notamment les places des grandes et moyennes villes du pays. Dans la dernière livraison de la revue du Crieur, l'architecte Eyal Vezman et son équipe analysent les liens entre les ronds-points et les soulèvements populaires. Cette disposition circulaire paraît donner de la force aux collectifs politiques en construction. Dans cette approche spatiale des soulèvements, d'un point de vue historique, il souligne une dynamique d'imitation et de contagion. L'avantage du rond-point, c'est qu'on peut faire le siège d'une ville entière en exerçant une pression sur un unique point clé à l'intérieur d'une infrastructure en réseau. Par ailleurs, les places affichent souvent une puissance symbolique due aux monuments représentant le régime. Le rond-point exercerait quant à lui un attrait comparable du fait de sa conception, l'autorégulation des usagers. Son développement au XXe siècle coïncide en effet avec l'essor de la dérégulation et de l'autorégulation comme principe dominant des théories politiques et économiques libérales. Enfin, par rapport au modèle du panoptique décrit par Foucault, il renverse les rôles, les citoyens n'étant plus les surveillés, mais ceux qui scrutent le régime et voient venir sa police. Pour Eyal Vezman, il faut ajouter au dispositif celui de la table ronde polonaise autour de laquelle se déroulèrent les négociations entre Solidarnosc et le gouvernement Jaruzelski. Le site de la revue Ballast publie un grand entretien avec Ludger Schwart, auteur d'une philosophie de l'architecture à la découverte. Comment l'architecture donne-t-elle forme aux événements ? Réponse, une révolution connaît deux types de dramaturgie, à savoir l'assaut sur le palais du souverain et le renversement de sa statue sur la place de la ville. Ainsi, à Paris, en 1792, les masses révolutionnaires arrachent les statues de Louis XIV et Louis XV sur la place des Victoires, la place Vendôme et la place Louis XV, rebaptisées place de la Révolution et aujourd'hui place de la Concorde. Or, de nombreuses places, comme la place Alexander à Berlin, la place Tahrir dire au Caire. La place de l'indépendance à Tunis ou la place Maïdan à Kiev sont issues de ces architectures parisiennes. Le philosophe dit avoir conçu son livre comme une réponse à Foucault, qui a beaucoup parlé de l'architecture en tant que technologie de pouvoir, mais pas comme un art de la construction des possibles.